Aristote, Morale à Eudème, livre 4, chapitre 5, à la fin. Chapitre 5, sommaire. La réciprocité ou le talion ne peut être la règle de la justice. Erreur des pythagoriciens. La réciprocité proportionnelle des services est le lien de la société. Règle de l'échange, rôle de la monnaie dans toutes les transactions sociales. Cette fonction de la monnaie, mesure commune de tout, est purement conventionnelle. Définition générale de la justice et de l'injustice. Paragraphe 1. La réciprocité, le talion, paraît à quelques personnes être le juste absolu. C'est la justice des pythagoriciens qui ont défini le juste en disant d'une manière absolue que c'est rendre exactement à autrui ce qu'on en a reçu. Mais le talion ne s'accorde ni avec la justice distributive ni avec la justice réparatrice et répressive. Paragraphe 2. Pourtant, l'on insiste et l'on prétend que le talion, c'est la justice de Radamante. Souffrir ce qu'on a fait, c'est la bonne justice. Paragraphe 3. Mais il y a bien des cas où cette doctrine est en défaut. Par exemple, si celui qui a porté les coups est un magistrat, il ne doit pas être frappé à son tour. Et si, au contraire, quelqu'un a frappé le magistrat, il ne suffit pas qu'il soit frappé, il faut encore qu'il soit puni. On doit en outre faire une grande différence selon que le délit a été volontaire ou involontaire. Paragraphe 4. J'avoue du reste que dans toutes les relations communes que les citoyens échangent entre eux, cette espèce de justice, c'est-à-dire la réciprocité proportionnelle et non pas strictement égale, est le lien même de la société. Et l'État ne subsiste que par cette réciprocité de service qui fait que chacun rend proportionnellement ce qu'il a reçu. En effet, de deux choses l'une, ou l'on cherche à rendre le mal pour le mal, autrement, la société serait une sorte de servitude si l'on y pouvait rendre le mal qu'on a éprouvé. Ou bien, on cherche à rendre le bien pour le bien. Sinon, il n'y a plus une réciprocité de service de la part des citoyens entre eux. Et c'est cependant par ce mutuel échange de services que la société peut subsister. Paragraphe 5. Ceci nous explique aussi pourquoi l'on place le temple des grâces dans le lieu le plus fréquenté de la ville. C'est afin d'exciter les citoyens à rendre à chacun les services qu'ils en ont reçus. Car c'est là le propre de la grâce. Il faut que vous obligiez à votre tour celui qui s'est montré gracieux envers vous. Et vous devez ensuite tâcher de prendre vous-même l'initiative, en vous montrant spontanément gracieux envers lui. Paragraphe 6. On peut représenter cette réciprocité proportionnelle de service par une figure carrée où l'on combinerait les termes opposés dans le sens de la diagonale. Soit par exemple, l'architecte A, le cordonnier B, la maison C, le soulier D. Ainsi, l'architecte recevra du cordonnier l'ouvrage qui est propre au cordonnier, et en retour, il lui rendra l'ouvrage qu'il fait lui-même. Si donc il y a d'abord, entre les services échangés, une égalité proportionnelle, et qu'ensuite il y ait réciprocité de bons offices, les choses se passeront comme je l'ai dit. Autrement, il n'y a ni égalité ni stabilité dans ces rapports. Car, puisqu'il se peut fort bien que l'œuvre de l'un vaille plus que celle de l'autre, il faut nécessairement les égaliser. Paragraphe 7. Cette règle se retrouve dans tous les autres arts. Il serait impossible si, d'une part, l'agent qui doit produire n'agissait pas dans une certaine mesure et d'une certaine façon, et si d'autre part, l'être qui doit souffrir l'action et la consommer ne souffrait pas cette action dans une mesure et d'une manière déterminée. De fait, il n'y a pas de relation possible entre deux agents semblables, entre deux médecins. Mais il y a possibilité de relation commune d'un médecin, par exemple, à un agriculteur, et en général, entre des gens qui sont différents, qui ne sont pas égaux, et qu'il faut égaliser entre eux avant qu'ils ne puissent traiter. Paragraphe 8. Ainsi donc, il faut toujours que les choses pour lesquelles l'échange a lieu soient comparables entre elles sur quelques points. Et c'est là que vient se placer la monnaie. On peut dire qu'elle est une sorte de milieu, d'intermédiaire. Elle est la mesure commune de toutes les choses, et par conséquent, elle évalue le prix supérieur de l'une tout aussi bien que le prix inférieur de l'autre. Elle montre combien il faudrait de chaussures, par exemple, pour égaler la valeur d'une maison ou celle des aliments que l'on consomme. Il faut donc que du maçon au cordonnier, il y ait tant de chaussures données pour le prix de la maison ou encore tant de chaussures pour le prix des aliments. Sans cette condition, il n'y aurait plus ni échange ni association possible, et l'un et l'autre ne sauraient avoir lieu si l'on ne parvenait point à établir entre les choses une sorte d'égalité. Paragraphe 9. Il faut donc, je le répète, trouver une mesure unique qui puisse s'appliquer à tous sans exception. Mais c'est le besoin que nous avons les uns des autres qui, dans la réalité, est le lien commun de la société qu'il maintient. Si les hommes n'avaient point de besoins, ou s'ils n'avaient pas des besoins semblables, il n'y aurait pas d'échange entre eux, ou du moins l'échange ne serait pas le même. Mais par l'effet d'une convention toute volontaire, la monnaie est devenue en quelque sorte l'instrument et le signe du besoin. C'est pour rappeler cette convention que, dans la langue grecque, on donne à la monnaie un nom dérivé du mot même qui signifie la loi, parce que la monnaie n'existe pas dans la nature. Elle n'existe que selon la loi, et il dépend de nous de la changer et de la rendre inutile si nous le voulons. Paragraphe 10. Il n'y a donc réciprocité véritable que quand on a égalisé les choses à l'avance et que la relation du laboureur, par exemple, au cordonnier, est aussi la relation de l'ouvrage de l'un à l'ouvrage de l'autre. Mais il ne faut pas exiger le rapport de proportion quand ils auront fait l'échange entre eux. Autrement, l'un des extrêmes aurait toujours les deux unités de plus dont nous parlions tout à l'heure. Mais quand chacun d'eux a encore son bien, alors ils sont égaux et dans une association véritable, parce que cette égalité peut s'établir de leur libre consentement. Soit le laboureur A, la nourriture qu'il produit, C, le cordonnier, B, et son ouvrage, ramené à l'égalité, D. Si la réciprocité des services n'existait pas avec les conditions que nous venons de dire, il n'y aurait pas d'association entre les hommes. Paragraphe 11. Ce qui prouve bien que c'est le besoin seul qui rapproche les deux contractants et en fait comme une unité, c'est que quand deux hommes sont sans besoin l'un envers l'autre, soit tous les deux, soit l'un des deux seulement, ils ne font pas d'échange, comme ils sont poussés à en faire lorsque l'un a besoin de ce que l'autre possède, et qu'ayant besoin de vin, par exemple, Il donne en échange le blé qu'il a et qu'on peut emporter. Il faut donc qu'on égalise les choses de part et d'autre. Paragraphe 12. Mais si actuellement l'on n'a besoin de rien, l'argent que l'on garde en main est comme une garantie que le futur échange pourra facilement avoir lieu dès que le besoin se fera sentir. Car il faut que celui qui alors donnera l'argent soit assuré de trouver en retour ce qu'il demandera. D'ailleurs, la monnaie elle-même est soumise aux mêmes variations. Elle ne conserve pas toujours la même valeur, bien que cette valeur soit cependant plus fixe et plus uniforme que celle des choses qu'elle représente. Il faut donc qu'il y ait une appréciation générale des choses, car c'est seulement ainsi que l'échange sera toujours possible. Et si l'échange a lieu, il y a par cela même association et commerce. La monnaie, en devenant comme une mesure générale qui permet de mesurer toutes les choses les unes par rapport aux autres, égalise tout. Ainsi, sans l'échange, pas de commerce ni de société. Sans égalité, pas d'échange. Et sans mœurs communes, pas d'égalité possible. En réalité, il ne se peut pas que des choses si différentes les unes des autres soient commensurables entre elles. Mais il est certain que pour le besoin qu'on en a, on peut arriver, sans trop de peine, à les mesurer toutes suffisamment. Paragraphe 13. Il faut donc qu'il y ait une unité de mesure. Mais cette unité est arbitraire et conventionnelle. On l'appelle monnaie, mot qui a en grec le sens étymologique qu'on a dit, et elle rend tout commensurable, car tout, sans exception, se mesure au moyen de la monnaie. Soit une maison A, 10 mines B, un lit C, soit A la moitié de B, c'est-à-dire que la maison vaut 5 mines, ou est égale à 5 mines. Supposons aussi que le lycée ne vaille que le dixième de B. Avec ces données, on voit aisément combien il faut de lits pour égaler la maison, c'est-à-dire qu'il en vaut 5. On comprend que c'est de cette façon, en nature, que l'échange avait lieu avant que la monnaie n'existât. Car peu importe que 5 lits soient échangés contre la maison ou contre tout autre objet qui aurait la valeur des 5 lits. Paragraphe 14. On voit donc, d'après toutes ces considérations, ce que c'est que le juste et l'injuste. Ces points une fois fixés, on voit aussi que l'équité personnelle, la pratique personnelle de la justice, est un milieu entre une injustice commise et une injustice soufferte. D'une part, on a plus qu'on ne doit avoir, de l'autre, on a moins. Mais si l'injustice est un milieu, ce n'est pas comme les vertus précédentes, c'est parce qu'elle tient à la place du milieu, tandis que l'injustice est aux deux extrêmes. Paragraphe 15. La justice est la vertu qui fait qu'on appelle juste un homme qui, dans sa conduite, pratique le juste par une libre préférence de sa raison, et qui sait également le répartir et à lui-même, à l'égard d'autrui, et entre d'autres personnes, qui sait agir, non pas de manière à se donner plus à lui-même et moins à son voisin, si la chose est utile, et tout à l'inverse, si elle est mauvaise, mais qui sait assurer de lui à autrui l'égalité proportionnelle, comme il l'assurerait s'il avait à prononcer dans les discussions des autres. Paragraphe 16. Quant à l'injustice, elle est précisément le contraire de tout cela relativement à l'injuste. L'injuste est tout à la fois l'excès en plus et le défaut en moins dans tout ce qui peut être utile ou nuisible, et jamais il ne tient le moindre compte de la proportion. Par suite, l'injustice est tout ensemble et un excès et un défaut, parce qu'elle est sans cesse ou dans l'excès ou dans le défaut, relativement à l'individu lui-même. Car si la chose est bonne, l'homme injuste s'en attribue une part énorme et pêche par excès. Quand elle est nuisible, il pêche par défaut en s'en attribuant le moins qu'il peut, et relativement aux autres, car ce sont en général les mêmes dispositions et sans se soucier jamais des règles équitables de la proportion, l'homme injuste prononce au hasard, selon que cela se trouve, comme si dans une injustice, le moindre mal n'était pas de la souffrir et le plus grand de la commettre. Paragraphe 17. Telles sont les considérations que je voulais présenter sur la justice et l'injustice, et sur la nature de chacune d'elles, et aussi sur le juste et l'injuste en général. Chapitre 6. Sommaire. Des caractères et des conditions de l'injustice et du délit. On peut commettre un crime sans être absolument criminel. De la justice sociale et politique. Du magistrat civil, ses hautes fonctions, sa noble récompense. Le droit du père et du maître ne peut se confondre avec le droit politique. Il y a une sorte de justice politique entre le mari et la femme. Paragraphe 1. Comme il est possible que celui qui commette une injustice ou un crime ne soit pas encore complètement injuste ou criminel, on peut se demander quel est le point où l'on devient réellement injuste et coupable dans chaque genre d'injustice. Par exemple, voleur, adultère, brigand. Ou bien, ne doit-on faire ici absolument aucune différence? Ainsi, un homme a pu avoir commerce avec une femme en sachant très bien à qui il avait affaire. Mais c'est sans aucune préméditation, et c'est la passion seule qui l'a entraîné. Paragraphe 2. Sans doute il a commis un crime, mais ce n'est pas un vrai criminel, et par suite, il peut n'être pas un voleur, bien qu'il ait volé, un adultère, bien qu'il ait eu un commerce adultère, et de même pour les autres espèces de délits. Paragraphe 3. On a dit plus haut quel est le rapport du talion ou de la réciprocité à la justice. Mais n'oublions pas que ce qu'on cherche ici, c'est tout à la fois et le juste absolu et le juste social, c'est-à-dire le juste appliqué à des gens qui associent leur vie pour assurer leur indépendance et qui sont libres et égaux, soit proportionnellement, soit individuellement et numériquement. Par conséquent, toutes les fois que ces biens ne leur sont pas garantis, il n'y a pas non plus de justice sociale proprement dite pour eux, les uns par rapport aux autres. Il y a seulement une justice quelconque qui ressemble plus ou moins à celle-là, car il n'y a de justice que quand il y a une loi qui prononce entre les hommes. Or, il n'y a de loi que là où il y a injustice possible, puisque le jugement est la décision sur le juste et l'injuste. Partout où il y a injustice possible, on peut aussi commettre des actes injustes. Mais là où on commet des actes injustes, il n'y a pas toujours injustice réelle, c'est-à-dire action de s'attribuer à soi-même plus de biens réels qu'on ne doit en avoir et moins de maux réels qu'on ne doit en souffrir. Paragraphe 4. C'est là ce qui fait que nous attribuons le pouvoir non pas à l'individu, mais à la raison. Parce que l'individu, revêtu du pouvoir, n'agit bientôt plus que pour lui seul et ne tarde pas à devenir un tyran. Mais le magistrat, à qui le pouvoir est confié, est le gardien de la justice. Et s'il est le gardien de la justice, il l'est aussi de l'égalité. Il ne s'avise jamais, en ce qui le regarde, de s'attribuer plus que ce qui lui revient, puisqu'il est juste. Et il ne se donne jamais personnellement une part plus considérable des biens qui sont à répartir, à moins que proportionnellement, ils ne doivent réellement en avoir davantage. Par suite, on peut dire qu'en ce sens, il travaille pour autrui. Et voilà ce qui m'a fait dire que la justice est un bien et une vertu qui concerne les autres plus que l'individu lui-même, ainsi qu'on l'a expliqué plus haut. Paragraphe 5. Le magistrat mérite donc une récompense qu'il faut lui donner. Et cette récompense, c'est l'honneur et la considération. Ceux qui ne se contentent pas de ce noble salaire deviennent des tyrans. Paragraphe 6. Le droit du maître et le droit du père ne se confondent pas avec ceux dont nous venons de parler, mais ils leur ressemblent. On comprend, en effet, qu'il n'y a pas à proprement parler d'injustice possible à l'égard de ce qui nous appartient. Or, la propriété d'un homme et son enfant, tant que cet enfant n'a qu'un certain âge et n'est pas séparé de son père, sont comme une partie de lui-même. Mais personne ne peut, de propos délibérés, vouloir se nuire. Et aussi, n'y a-t-il pas d'injustice à l'égard de soi-même? Il n'y a donc rien ici de la justice ni de l'injustice sociale et politique. La juste politique n'existe qu'en vertu de la loi et ne s'applique qu'aux êtres qui, naturellement, doivent être gouvernés par la loi. Or, ces êtres-là sont ceux qui, dans leur égalité, peuvent prétendre à une alternative de commandement et d'obéissance. Voilà pourquoi cette sorte de justice s'applique bien plus du mari à la femme que du père aux enfants ou du maître aux propriétés. La justice qui régit les propriétés et les enfants, c'est la justice domestique, qui diffère, elle aussi, de la justice politique et civile. Chapitre 7. Sommaire. Dans la justice sociale et dans le droit civil et politique, il faut distinguer ce qui est naturel et ce qui est purement légal. Les choses de nature, sans être immuables, sont cependant moins sujettes à changer que les lois humaines. Il y a, sous chaque disposition particulière de la loi, des principes généraux qui ne changent point. Distinction du délit spécial et de l'injuste en général. Paragraphe 1. Dans la justice civile, dans le droit politique, on peut distinguer ce qui est naturel et ce qui est purement légal. Ce qui est naturel, c'est ce qui a partout la même force et ne dépend point des décrets que les hommes peuvent rendre dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est purement légal, c'est tout ce qui, dans le principe, peut indifféremment être de telle façon ou de la façon contraire, mais qui cesse d'être indifférent dès que la loi a disposé. Par exemple, la loi prescrit de porter la rançon des prisonniers à une mine ou d'immoler une chèvre à Jupiter et non pas une brebis. Telles sont, encore, toutes les dispositions relatives à des particuliers. Et la loi peut ordonner ainsi de sacrifier à Brasidas. Tel est, enfin, tout ce qui est prescrit par des décrets spéciaux. Paragraphe 2. Il est des personnes qui pensent que la justice, sous toutes ses formes sans exception, a ce caractère de mutabilité. Selon elles, ce qui est vraiment naturel est immuable et a partout la même force, les mêmes propriétés. Ainsi, le feu brûle tout aussi bien et dans nos contrées et en Perse, tandis que les lois humaines et les droits qu'elles fixent sont dans un changement perpétuel. Paragraphe 3. Cette opinion n'est pas parfaitement exacte, mais elle est vraie cependant en partie. Peut-être, pour les dieux, n'y a-t-il rien de cette mobilité. Mais pour nous, il y a des choses qui, tout en étant naturelles, sont sujettes néanmoins à changer. Pourtant, tout n'est pas variable, et l'on peut distinguer avec raison, dans la justice civile et politique, ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. Paragraphe 4. Mais en admettant même que tout soit variable en ceci, on discerne clairement, parmi les choses qui pourraient être encore autrement qu'elles ne sont, celles qui, par leur nature, sont muables, et celles qui, sans l'être naturellement, ne le deviennent que par l'effet de la loi et de nos conventions. La même distinction pourra convenir tout aussi bien à d'autres choses que la justice. Et ainsi, la main droite est naturellement plus prête à nous servir, bien que cependant tous les hommes puissent se rendre ambidextres. Paragraphe 5. Il en est des prescriptions de la justice fondées sur des conventions et sur l'utilité, absolument comme il en est des mesures pour apprécier les objets. Les mesures de vin et de froment ne sont pas partout d'une égale contenance. Et pourtant, elles sont également partout plus grandes, là où on l'achète, et plus petites, là où on le vend. De même aussi, les droits qui ne sont pas naturels mais qui sont purement humains, ne sont point partout identiques. Les constitutions ne le sont pas davantage, bien qu'il n'y en ait qu'une seule qui soit partout naturelle, et c'est la meilleure. Paragraphe 6. Mais chacun des décrets, chacune des prescriptions légales en particulier, sont comme les idées générales par rapport aux idées particulières. Les actions accomplies peuvent être fort nombreuses, et cependant, chacune des lois qui les règlent est une, parce que le principe en est général. Paragraphe 7. Il faut encore faire une différence entre l'injuste légal et l'injuste pris absolument, entre le juste légal et le juste absolu. L'injuste proprement dit est ce qui est tel par nature. C'est aussi ce qui le devient par suite d'une disposition légale. Cette même chose, après qu'on l'a faite ou qu'on l'a commise, devient un acte légalement injuste. Mais avant d'être faite, elle n'est pas un acte légalement injuste. Elle n'est qu'injuste en soi. On en peut dire autant de l'acte juste. Mais dans le langage commun, on réserve le nom d'acte juste pour une action qui est juste, et celui d'acte de justice pour le redressement légal de l'action injuste qui a été commise. Nous aurons à étudier plus loin pour chacun de ces genres, la nature et le nombre de leurs espèces et les objets auxquels elles se rapportent. Chapitre 8. Sommaire. L'intention est un élément nécessaire du délit et de l'injustice. Les actes involontaires ou imposés par une force supérieure ne sont pas des actes coupables. De la préméditation. La colère excuse en partie les actions qu'elle fait commettre. Des fautes qu'on peut pardonner des fautes impardonnables. Paragraphe 1. Les actes conformes à la justice et les actes injustes étant tels que nous venons de le dire, on ne commet un délit ou l'on ne fait un acte juste que quand on agit volontairement dans l'un ou l'autre des deux cas. Mais quand on agit sans le vouloir, on n'est point juste ni injuste si ce n'est indirectement, car c'est par une sorte d'accident qu'on a été juste ou injuste en agissant ainsi. Paragraphe 2. C'est donc ce qu'il y a dans l'action de volontaire ou d'involontaire qui en fait l'iniquité ou la justice. Si l'action est volontaire, elle est blâmable, et elle devient, en même temps, et par cela seul, une faute, une injustice. Par suite, un acte pourra bien être quelque chose d'injuste, mais ce ne sera pas encore un acte injuste, un délit proprement dit, si l'intention ne vient pas s'y joindre. Paragraphe 3. Quand je dis volontaire, j'entends, comme je l'ai déjà expliqué plus haut, une chose que fait quelqu'un en connaissance de cause, dans des circonstances qui ne dépendent que de lui, et sans ignorer ni la personne à qui cette chose se rapporte, ni le moyen qu'il emploie, ni le but qu'il poursuit. Par exemple, je cite le cas où l'on sait qui l'on frappe, avec quel instrument on le frappe, pour quelle cause, et où chacune de ces conditions ne se produit ni par accident ni par force majeure, comme si quelqu'un, saisissant votre main, vous contraignait à frapper cette autre personne, ce ne serait pas alors avec volonté que vous auriez frappé. Cela ne dépendrait pas de vous. Il se pourrait même que la personne ainsi frappée fût votre père, et que celui qui a guidé votre bras sût bien qu'il allait vous faire frapper un homme et une des personnes présentes, mais qu'il ignora que cette personne était votre père. On peut faire des hypothèses tout à fait analogues pour le motif qui fait agir et pour toutes les autres circonstances de l'acte. Du moment qu'on ignore ce qu'on fait, ou que sans l'ignorer, l'acte ne dépend pas de vous et vous est imposé par la force, cet acte est involontaire. Ainsi, il y a beaucoup de choses qui sont dans le cours ordinaire de la nature et que nous faisons ou que nous subissons en pleine connaissance de cause, sans qu'il y ait de notre part rien de volontaire ni d'involontaire. Par exemple, vieillir et mourir. Paragraphe 4. Il peut également y avoir de l'accidentel dans les actions justes et injustes. Que quelqu'un, par exemple, rende un dépôt contre son gré et sous l'empire de la crainte. On ne pourra pas dire qu'il se conduit avec justice, ni qu'il fait un acte juste, si ce n'est indirectement et par accident. Et réciproquement, on doit dire de celui qui se voit forcé par une nécessité absolue et contre son gré de ne pas rendre un dépôt, qu'il n'est injuste et ne commet un délit qu'accidentellement. Paragraphe 5. Parmi les actions volontaires, on peut distinguer encore celles qui sont faites sans préférence et sans choix, et celles qui sont faites par suite d'un choix éclairé. Les actions que nous faisons avec choix sont celles que nous avons délibérées à l'avance. Celles que nous faisons sans choix sont celles que nous n'avons pas délibérées préalablement. Paragraphe 6. Par suite, dans les relations sociales, on peut nuire à ses concitoyens de trois manières différentes. D'abord, il y a les dommages commis par ignorance. Ce ne sont que des erreurs. Dans tous les cas où l'on agit sans savoir à qui, Comment, avec quoi et dans quel but on fait ce qu'on fait. Ainsi, l'on ne voulait pas frapper, ni avec cette chose, ni cet homme, ni pour cette cause. Mais la chose a tourné tout autrement qu'on ne pensait. Par exemple, on avait lancé le projectile non pour blesser, mais pour faire une simple piqûre. Ou bien, ce n'était ni cette personne qu'on voulait atteindre, ni de cette façon qu'on voulait la toucher. Paragraphe 7. Quand donc le dommage a été produit contre toute prévision raisonnable, c'est un malheur. Quand ce n'est pas précisément contre toute prévision, mais que c'est sans méchanceté, c'est une faute. Car l'auteur de l'accident a fait une faute, si le principe du dommage causé est en lui, tandis qu'il n'est que malheureux quand elle vient du dehors. Paragraphe 8. En second lieu, quand on agit avec pleine connaissance de cause, quoique sans préméditation, c'est un acte injuste, un délit que l'on commet, et l'on peut ranger dans cette classe tous les accidents qui arrivent parmi les hommes par suite de la colère et de toutes les passions nécessaires ou naturelles en nous. En causant de tels dommages, en commettant de telles fautes, on fait certainement des actes injustes, et ce sont là, sans nul doute, des injustices. Mais pour cela, on n'est pas encore essentiellement ni injuste ni méchant, car le dommage ne vient pas précisément de la perversité de ceux qui le causent. Paragraphe 9. Enfin, quand au contraire, c'est de dessein prémédité qu'on agit, on est tout à fait coupable et pervers. Je trouve donc que c'est avec grande raison qu'on ne juge pas comme prémédité les actions commises dans les emportements du cœur. Car souvent, la véritable cause de l'action n'est pas tant celui qui agit par colère que celui qui a provoqué son courroux. Paragraphe 10. Dans ces circonstances, on ne discute point ordinairement sur la réalité ou la fausseté de l'action. On ne discute que sur sa justice, parce que la colère, habituellement, ne s'émeut qu'en face d'une injustice soufferte et qu'on croit certaine. Dans ces cas-là, on ne discute pas sur le fait, comme pour l'exécution des contrats, où il faut toujours que l'un des contractants soit nécessairement de mauvaise foi, à moins qu'il n'agisse par simple oubli. Mais ici, l'on est d'accord sur le fait lui-même, et l'on ne conteste que sur sa justice. Celui qui s'est permis d'attaquer ne le méconnaît pas, et par suite, l'un des plaignants soutient qu'on a eu tort envers lui, et l'autre soutient que non. Paragraphe 11. Si l'on nuit avec intention à quelqu'un, on commet une injustice. Et celui qui commet des injustices de ce genre est vraiment injuste, que son action, d'ailleurs, pèche contre la proportion ou contre la simple égalité. On peut faire une remarque tout à fait analogue pour l'homme juste. Il est vraiment juste quand il accomplit un acte juste, après une résolution antérieure, et l'action n'est juste que si elle est volontaire et libre. Paragraphe 12. Quant aux dommages involontaires, les uns sont pardonnables, les autres ne le sont pas. En effet, on peut pardonner toutes les fautes que l'on commet en ignorant qu'on les commet, et même celles qu'on fait par suite de l'ignorance. Mais toutes les fautes qui sont commises, non pas précisément par ignorance, mais par l'aveuglement d'une passion qui n'est ni naturelle ni digne d'un homme, sont des fautes impardonnables. Chapitre 9. Sommaire. Réfutation de quelques définitions de l'injustice. Erreur d'Euripide. L'injustice qu'on fait est toujours volontaire. Celle qu'on souffre ne l'est réellement jamais. Réponse à quelques objections. Définition plus complète de l'injustice. On ne peut pas se faire d'injustice à soi-même. Glaucus et Diomède. Dans un partage inique, le coupable est celui qui le fait et non celui qui l'accepte. Des devoirs du juge. Difficulté et grandeur de la justice. Classe spéciale d'êtres qui peuvent la pratiquer. Elle est une vertu essentiellement humaine. Paragraphe 1. Mais ici, l'on pourrait se demander si nous avons bien exactement défini ce que c'est que souffrir ou commettre une injustice. Et d'abord, Euripide a-t-il bien compris ce qu'elle est quand il dit ces étranges paroles ? C'est moi qui l'immolais, ma mère. Et je le dis, elle et moi le voulions. Oui, l'ordre est venu d'elle. Mais est-il possible, réellement, que jamais quelqu'un veuille, de son plein gré, qu'on lui fasse un dommage, une injustice? Ou plutôt, n'est-ce pas involontairement qu'on subit l'injustice, de même que c'est toujours volontairement qu'on la commet? Se peut-il, en effet, que l'injustice qu'on souffre ait l'un ou l'autre caractère indifféremment? De même que toute injustice qu'on commet est nécessairement volontaire. En d'autres termes, l'injustice qu'on souffre peut-elle être tantôt volontaire et tantôt ne l'être pas? Paragraphe 2. On peut encore poser des questions toutes pareilles en ce qui concerne la justice qu'on reçoit des autres. Car, comme tout acte de justice qu'on fait soi-même est toujours volontaire, il paraît qu'on peut également, avec toute raison, opposer à titre de volontaire et d'involontaire l'injustice et la justice qu'on éprouve de la part d'autrui. Mais il doit paraître assez étrange de soutenir que la justice qu'on reçoit est toujours volontaire, puisque bien des gens trouvent qu'on leur fait justice sans qu'ils l'aient demandé et sans qu'ils le veuillent. Paragraphe 3. Une autre question qu'on pourrait soulever, c'est de savoir si, dans tous les cas, celui qui éprouve quelque chose d'injuste est effectivement traité avec injustice. Ou bien, il en est peut-être que l'injustice qu'on souffre, comme il en est de l'action juste qu'on fait. Il se peut que ce soit accidentellement et par l'effet du hasard, que dans l'un ou l'autre sens, on ait une part de justice. Et cette remarque ne s'applique pas moins évidemment à l'injustice et avec les mêmes nuances. Car ce n'est pas du tout une même chose de faire des actes d'injustice et d'être injuste. Ce n'est pas davantage une même chose de souffrir des actes d'injustice ou de souffrir une injustice réelle. Même distinction à faire pour la justice que l'on rend aux autres ou qu'on reçoit d'eux. Car il est impossible de souffrir une injustice sans qu'il y ait quelqu'un qui commette une injustice, ni d'obtenir la justice qui vous est due sans qu'il y ait quelqu'un qui accomplisse un acte de justice. Paragraphe 4. Mais il suffit, avons-nous dit, pour être absolument coupable d'une injustice, de faire volontairement du mal à quelqu'un. Et faire volontairement, c'est savoir contre qui, avec quoi et comment l'on agit. Il suit de là, ce semble, que l'intempérant qui, de sa pleine volonté, se nuit à lui-même, éprouve volontairement un dommage, et qu'on pourrait ainsi être coupable envers soi-même et se faire un tort personnel. Car c'est une question qu'on a élevée aussi, de savoir si l'on peut être coupable envers soi. Paragraphe 5. On peut faire une autre hypothèse et supposer que, par intempérance, on en viendrait à éprouver volontairement une injustice de la part d'un autre qui la commettrait non moins volontairement. Dans cette supposition encore, on souffrirait volontairement une injustice. Mais il vaut mieux reconnaître que notre définition de l'injuste n'est pas exacte ou complète, et il faut ajouter aux conditions de savoir à qui, avec quoi et comment on nuit, cette autre condition que l'on agit contre la volonté de celui qui souffre l'injustice. Paragraphe 6. On peut donc éprouver du dommage par sa volonté propre et souffrir même volontairement des choses injustes. Mais personne ne se fait à lui-même d'injustice réelle ni d'injure volontairement, car personne ne le veut réellement, pas même l'intempérant qui ne se possède plus. Loin de là, l'intempérant agit contre sa propre volonté, puisque personne ne veut jamais ce qu'il ne croit pas bien. Mais l'intempérant fait précisément ce qu'il croit qu'on ne doit pas faire. Paragraphe 7. On n'éprouve pas une injustice, un tort, parce qu'on donne son propre bien inconsidérément, comme Homère dit que Glaucus donna le sien à Diomède en échangeant de l'or pour de l'airain, 100 bœufs contre 9 bœufs. Dans ce cas, donner ne dépend que de celui qui donne, mais souffrir une injustice ne dépend pas de celui qui la souffre, et il suffit qu'il y ait quelqu'un qui la commette sciemment. Paragraphe 8. On voit donc en résumé que ce n'est jamais volontairement que l'on éprouve une injustice. Des questions que nous nous étions posées, il nous en reste encore deux à traiter et les voici. C'est de savoir qui a tort, ou de celui qui donne à quelqu'un plus qu'il ne mérite, ou de celui qui reçoit plus qu'il ne lui est dû. Et en second lieu, c'est de savoir si l'on peut se faire du tort à soi-même. Paragraphe 9. Si le premier tort dont on vient de parler est possible, et si celui qui donne plus qu'il ne faut est seul coupable, et non pas celui qui reçoit plus qu'il ne lui revient, il s'ensuit que, quand en toute connaissance de cause et par un acte de libre volonté, on donne à quelqu'un plus qu'on ne se donne à soi-même, on commet une injustice envers soi. C'est à quoi les gens désintéressés sont souvent exposés. Et l'homme délicat et honnête est porté à diminuer toujours sa part personnelle. Mais cette question est-elle aussi simple que nous la faisons ici? Cet homme, s'il gagne en échange un autre bien, la gloire par exemple, ou le véritable honneur, n'a-t-il pas encore gardé la part la plus belle? On peut donner aussi à cette difficulté une solution qu'on trouvera dans notre définition même de l'injustice. Cet homme ne souffre rien contre sa propre volonté. Par conséquent, il n'éprouve pas pour cela une réelle injustice, puisqu'il le veut. Il n'éprouve au fond qu'un simple dommage. Paragraphe 10. Il est également clair que c'est celui qui fait le partage qui a tort ici, et que ce n'est pas toujours celui qui en profite. Celui qui a la chose injustement donnée n'est pas le vrai coupable. C'est celui qui, de sa propre volonté, a fait cet inique partage, c'est-à-dire celui d'où vient le principe même de l'acte, et ce principe est dans celui qui règle les parts et non dans celui qui les accepte. Paragraphe 11. Ajoutons que, comme le mot « faire » a plusieurs acceptions, et que l'on peut dire en un certain sens des choses inanimées elles-mêmes qu'elles donnent la mort, ainsi que la main qui est contrainte par une force supérieure, ou le serviteur qui ne fait qu'accomplir l'ordre de son maître, on doit reconnaître que dans bien des cas, celui qui agit n'est pas injuste, mais que seulement il fait des choses injustes. Paragraphe 12. En prenant un autre point de vue, si le juge a prononcé une sentence inique, sans connaître son erreur, il peut n'être point injuste au terme du droit légal, et son jugement peut n'être pas injuste non plus sous ce rapport. Cependant, en un sens, ce juge est coupable, car la justice, telle que la loi la règle, est tout autre que la suprême et absolue justice. Que si le juge a rendu une sentence inique, en sachant bien ce qu'elle était, il a fait un excès, soit de faveur pour l'une des parties, soit de châtiment contre l'autre. Paragraphe 13. Alors, c'est absolument comme si l'on prenait personnellement sa part de l'injustice. Et quand on se laisse aller à juger uniquement pour de tels motifs, c'est qu'on y trouve un coupable intérêt. Car on peut affirmer que celui qui, dans cette situation, adjuge injustement, par exemple, le champ, objet du litige, s'il ne reçoit pas de la terre, a du moins reçu de l'argent. Paragraphe 14. Les hommes s'imaginent que comme il ne dépend que d'eux seuls de commettre une injustice, c'est aussi une chose facile pour eux que d'être juste. Mais il n'en est rien. Sans doute, séduire la femme de son voisin, frapper quelqu'un qui passe ou donner à un juge de l'argent de la main à la main, c'est une chose aisée et qui ne dépend que de nous. Mais faire tels autres actes en ayant certaines dispositions morales n'est pas une chose aussi facile qu'on le croit, et qui dépendent de nous uniquement. Paragraphe 15. De même encore, on se persuade ordinairement que connaître le juste et l'injuste n'exige pas une très grande sagesse, parce qu'il n'est pas difficile de comprendre les prescriptions que contiennent les lois à cet égard. Mais les prescriptions légales ne sont qu'indirectement les actes de justice qu'il s'agit d'appliquer. C'est en pratiquant ces actes d'une certaine manière, c'est en les répartissant d'une certaine façon, qu'on arrive à exercer véritablement la justice. Or, c'est là une œuvre plus difficile que de connaître ce qui convient à la santé de notre corps. Même en fait d'hygiène et de médecine, il peut être aisé de connaître ce que c'est que le miel, le vin, l'ellébore, la cautérisation, l'amputation. Mais savoir précisément dans quelle mesure, pour quelle personne, dans quel cas, il faut les employer comme moyen de guérison, c'est là une œuvre telle qu'il n'en faut pas davantage pour faire un médecin. Paragraphe 16. C'est encore par suite de cette même opinion qu'on suppose qu'il ne serait pas moins facile à l'homme d'être injuste s'il le voulait. Le juste, à ce que l'on croit, pourrait trouver plus de moyens de commettre toutes ses iniquités, bien loin d'en trouver moins que les autres. Il pourrait avoir un commerce adultère, il pourrait frapper quelqu'un. L'homme de courage aussi pourrait, dans un combat, jeter son bouclier et s'enfuir à toutes jambes dans la première direction venue. Mais pour être un lâche, pour être coupable, il ne suffit pas seulement de faire toutes ces choses, si ce n'est indirectement. Il faut encore les faire par suite d'une certaine disposition morale. De même que faire de la médecine et rendre la santé ne consiste pas seulement à couper ou à ne pas couper, à donner des médicaments ou à ne les pas donner. L'art véritable du médecin consiste à faire toutes ces choses dans certaines circonstances déterminées. Paragraphe 17. La justice n'a ses réelles applications que parmi les êtres qui ont une part des biens absolus, et qui en outre peuvent, par excès ou par défaut, en avoir trop ou trop peu. Il est des êtres pour lesquels il n'y a pas d'excès possible de ses biens. Et par exemple, c'est là peut-être la condition des dieux. Il en est d'autres, au contraire, pour qui nulle partie de ses biens ne saurait être utile. Ce sont les êtres dont la perversité est incurable, et pour lesquels toute chose devient nuisible, quelle qu'elle soit. Il en est d'autres, enfin, qui participent de ses biens dans une certaine mesure, et c'est ce qui est essentiellement humain. Chapitre 10. Sommaire. De l'honnêteté. Ses rapports et ses différences avec la justice. L'honnêteté est dans certains cas au-dessus de la justice elle-même, telle que la loi la détermine. La loi doit nécessairement employer des formules générales qui ne peuvent s'appliquer à tous les cas particuliers. L'honnêteté ou l'équité redresse et complète la loi. Définition de l'honnête homme. Paragraphe 1. La suite naturelle des considérations précédentes, c'est de traiter de l'honnêteté et de l'honnête, et d'étudier les rapports de l'honnêteté avec la justice et de l'honnête avec le juste. Si l'on y regarde de près, on verra que ce ne sont pas des choses absolument identiques et qu'elles ne sont pas non plus d'un genre essentiellement différent. À un certain point de vue, nous ne nous bornons pas à louer l'honnêteté et l'homme qui la pratique. Nous allons même jusqu'à étendre cette louange à toutes les actions estimables autres que des actions de justice. Ainsi, au lieu du terme général de « bon », nous employons le terme d'honnête. Et en parlant d'une chose, nous disons qu'elle est plus honnête pour dire apparemment qu'elle est meilleure. Mais, à un autre point de vue et en ne consultant que la raison, on ne comprend pas que l'honnête ainsi distingué du juste puisse être encore vraiment digne d'estime et d'éloge. Car de deux choses l'une, ou le juste n'est pas bon, ou bien l'honnête n'est pas juste, s'il est autre chose que le juste. Ou enfin, si tous deux sont bons, ils sont donc nécessairement identiques. Paragraphe 2. Telles sont à peu près les faces diverses et assez embarrassantes sous lesquelles se présente la question de l'honnête. Mais, en un certain sens, toutes ces expressions sont ce qu'elles doivent être, et elles n'ont entre elles rien de contradictoire. Ainsi, l'honnête, qui est meilleur que le juste dans telle circonstance donnée, est juste aussi. Et ce n'est pas comme étant d'un autre genre que le juste qu'il est meilleur que lui dans ce cas. L'honnête et le juste sont donc la même chose. Et tous les deux étant bons, la seule différence, c'est que l'honnête est encore meilleur. Paragraphe 3. Ce qui fait la difficulté, c'est que l'honnête, tout en étant juste, n'est pas le juste légal, le juste suivant la loi. Mais il est une heureuse rectification de la justice rigoureusement légale. Paragraphe 4. La cause de cette différence, c'est que toujours la loi est générale nécessairement, et qu'il est certains objets pour lesquels on ne saurait convenablement statuer par voie de disposition générale. Aussi, dans toutes les questions où il est absolument inévitable de prononcer d'une manière purement générale, et où il n'est pas possible de le bien faire, la loi ne saisit que les cas les plus ordinaires, sans se dissimuler d'ailleurs ses propres lacunes. La loi pour cela n'est pas moins bonne. La faute n'est point ici à elle. La faute n'est pas davantage dans le législateur qui porte la loi. Elle est tout entière dans la nature même de la chose, car c'est là, précisément, la condition de tous les actes de pratique. Paragraphe 5. Lors donc que la loi dispose d'une manière toute générale, et que dans les cas particuliers, il y a quelque chose d'exceptionnel, alors on fait bien, là où le législateur est en défaut, et où il s'est trompé parce qu'il parlait en termes absolus, de redresser et de suppléer son silence, et de prononcer à sa place, comme il prononcerait lui-même s'il était là, c'est-à-dire en faisant la loi comme il l'aurait faite s'il avait pu connaître le cas particulier dont il s'agit. Paragraphe 6. Ainsi, l'honnête est juste aussi, et il vaut mieux que le juste dans certaines circonstances, non pas que le juste absolu, mais mieux apparemment que la faute résultant des termes absolus que la loi a été forcée d'employer. La nature de l'honnête, c'est précisément de redresser la loi là où elle se trompe, à cause de la formule générale qu'elle doit prendre. Paragraphe 7. Ce qui fait encore que tout ne peut s'exécuter dans l'État par le moyen seul de la loi, c'est que, pour certaines choses, il est absolument impossible de faire une loi, et que par conséquent, il faut pour celle-là recourir à un décret spécial. Pour toutes les choses indéterminées, la loi doit rester indéterminée comme elle, pareil à la règle de plomb dont on se sert dans l'architecture de Lesbos. Cette règle, on le sait, se plie et s'accommode à la forme de la pierre qu'elle mesure, et ne reste point rigide. Et c'est ainsi que le décret spécial s'accommode aux affaires diverses qui se présentent. Paragraphe 8. On voit donc clairement ce qu'est l'honnête et ce qu'est le juste, et à quelle sorte de juste l'honnête est préférable. Ceci montre avec non moins d'évidence ce que c'est que l'homme honnête. C'est celui qui préfère, par un libre choix de sa raison, et qui pratique dans sa conduite des actes du genre de ceux que je viens d'indiquer, qui ne pousse pas son droit jusqu'à une fâcheuse rigueur, mais qui s'en relâche au contraire, bien qu'il ait l'appui de la loi pour lui. C'est là un homme honnête. Et cette disposition morale particulière, cette vertu, c'est l'honnêteté qui est une sorte de justice et qui n'est pas une vertu différente de la justice elle-même. Chapitre 11. Sommaire. On ne peut être réellement injuste envers soi-même. Du suicide. La société a raison de le flétrir. C'est un crime envers elle. Il vaut mieux souffrir une injustice que la commettre. Explication de cette opinion qu'on peut être injuste envers soi-même. Une partie de l'âme peut être injuste envers l'une de ses autres parties. Fin de la théorie de la justice. Paragraphe 1. On voit encore, d'après ce que nous venons de dire, si l'on peut ou non être injuste et coupable envers soi-même. Il faut mettre au nombre des devoirs imposés par la justice tous les actes qui, pour chaque genre de vertu, sont ordonnés positivement par la loi. Ainsi, la loi n'ordonne pas qu'on se suicide, et ce qu'elle n'ordonne pas, elle le défend. Paragraphe 2. De plus, lorsque, contrairement à la loi, on cause un dommage à autrui, sans avoir cette excuse de rendre à son tour un dommage qu'on a reçu soi-même, c'est volontairement qu'on se rend injuste et coupable. Volontairement veut dire ici qu'on sait à qui, avec quoi et comment on a causé ce dommage. Mais celui qui se tue dans un accès de colère fait volontairement contre la loi, pleine de raison, un acte que la loi ne lui permet pas. Il commet donc un acte coupable. Paragraphe 3. Mais envers qui ? Est-ce envers la société et non envers lui-même ? Car enfin, s'il souffre, c'est volontairement. Et personne ne se fait volontairement une injustice. Voilà pourquoi la société le punit. Et une sorte de déshonneur s'attache au suicide qui est regardé comme coupable envers la société. Paragraphe 4. De plus, on ne peut être injuste envers soi, dans le sens où nous disons d'un homme qu'il est injuste, par cela seul qu'il commette un acte d'injustice, sans être d'ailleurs absolument pervers. L'injustice envers soi-même est tout à fait différente de cette sorte d'injustice. L'homme qui se rend coupable d'un méfait accidentellement est vicieux, comme le lâche dont nous parlions plus haut. Mais il n'est pas plus que lui, complètement vicieux. L'homme qui est injuste envers soi ne commet pas non plus son injustice par suite d'une absolue perversité. La lui imputer, ce serait supposer qu'on peut tout à la fois enlever et donner une même chose à une même personne. Or, cela est impossible, et il y a toujours nécessité que le juste et l'injuste soient dans plusieurs individus. Paragraphe 5. De plus, il faut que l'acte injuste soit volontaire, qu'il soit le résultat d'une libre préférence et antérieur à toute provocation, puisque celui qui rend le mal qu'on lui a fait sans autre motif que sa propre souffrance ne peut passer jamais pour commettre une injustice. Mais celui qui commet une injustice envers lui-même souffre et fait tout à la fois, dans un même temps, les mêmes choses. Et il s'ensuivrait qu'on pourrait alors se faire souffrir à soi-même une injustice par sa propre volonté. Paragraphe 6. Ajoutez à tout ceci que l'on ne peut être injuste et coupable sans commettre une des injustices particulières, un des délits particuliers. Or, personne n'est adultère avec sa propre femme. Personne ne se vole en perçant son propre mur. Personne ne se dérobe son propre bien. En résumé, la question de savoir si l'on peut se faire injustice à soi-même se résout par la définition que nous avons donnée de l'injustice qu'on souffre volontairement. Paragraphe 7. Ce qui n'est pas moins évident, c'est que ce sont deux choses mauvaises que de souffrir et de commettre une injustice. C'est en effet d'un côté avoir moins et de l'autre avoir plus que la moyenne et juste part. C'est avoir perdu ce milieu désirable qui, à d'autres points de vue, constitue la santé dans la médecine et l'embonpoint normal dans la gymnastique. Mais à tout prendre, commettre une injustice est plus mauvais que la souffrir, parce que l'injustice que l'on commet est toujours accompagnée de perversité et qu'elle est profondément blâmable. Et quand je dis perversité, j'entends soit la perversité complète et absolue, soit un degré qui s'en rapproche beaucoup, bien que tout acte volontaire d'injustice ne suppose pas nécessairement un fond réel d'iniquité. Au contraire, quand on souffre une injustice, c'est toujours sans perversité ni injustice de notre part. Paragraphe 8. Ainsi donc, en soi, souffrir une injustice est bien moins fâcheux que la commettre, ce qui n'empêche pas qu'indirectement, ce ne puisse être parfois un mal beaucoup plus grand. Mais peu importe à la science qui n'a point à s'occuper de ces détails. La science dit, par exemple, qu'une pleurésie est un mal plus grave qu'un faux pas. Et cependant, il se peut qu'indirectement le faux pas devienne un mal bien plus grand. Si, par exemple, La chute qu'ils causent vous fait tomber entre les mains des ennemis et vous fait tuer par eux. Paragraphe 9. C'est donc par simple métaphore et par similitude qu'on peut dire qu'il y a, non pas précisément une justice de soi envers soi-même, mais de certaines parties de nous envers certaines autres parties. Cette justice n'est pas la justice absolue, c'est seulement la justice du maître à l'esclave ou du père à sa famille. Dans toutes nos théories, la partie raisonnable de l'âme se distingue et se sépare de la partie irrationnelle. Et c'est en ne regardant qu'à cette distinction que l'on croit qu'il est possible de commettre une injustice envers soi-même. Mais s'il arrive en effet, dans ces phénomènes de l'âme, que l'homme se voit souvent contrarié dans ses propres désirs, c'est qu'il peut y avoir, entre ces parties diverses de notre âme, certains rapports de justice, comme il en existe entre l'être qui commande et celui qui obéit. Paragraphe 10. Voilà ce que nous avions à dire relativement à la justice et aux autres vertus morales. Fin du livre 4e.